Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est l'histoire d'un énorme gâchis qui dure depuis des décennies. Elle raconte un scandale, en vérité. La manière dont ce qu'on appelait autrefois la DAS, et aujourd'hui l'aide sociale à l'enfance, s'applique à priver les enfants d'amour. Et c'est votre histoire, Liès, bonjour à vous.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission, vous avez raconté cette histoire dans un livre, « Dans l'enfer des foyers », paru chez Flammarion, aujourd'hui en poche chez J'ai lu, qui raconte comment, donc, de votre naissance jusqu'à vos 18 ans, l'aide sociale à l'enfance vous a baladé de familles d'accueil souvent malfaisantes, en foyers violents, en prenant soin de faire en sorte que vous n'ayez pas d'amour. Cet amour qui permet en général à un enfant de se construire en sécurité. Votre histoire est absolument terrible, vous vous en êtes sorti, et cela montre que vous êtes un miraculé. Je vais faire aujourd'hui quelque chose que je n'ai jamais fait. Je vais raconter votre histoire au jeu, c'est-à-dire en essayant de me mettre à votre place. La réalisation est de Céline Lebrun.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Je n'ai pas de père, ma mère est malade mentale, le reste de ma famille ne veut pas de moi. Alors je dépends de l'État, de l'aide sociale à l'enfance. On me dit souvent que je suis courageux, ça devrait me faire plaisir, mais en vérité, j'ai pas pu faire autrement. C'était je marche ou je crève. Finalement, je m'en suis sorti, alors je vais vous raconter mon histoire d'enfant placé, mon parcours de sans-famille, au milieu des crachats, sous le joug d'un État qui gère au pire. D'abord, voilà ce que je sais du début de mon histoire. Comment je suis né? Un jour, ma mère se promène dans le centre des Mureaux, en banlieue parisienne. Elle est belle, ma mère. Brune, classe. Elle a un rendez-vous pour un emploi. Une grosse voiture noire ralentit à son îlot. Dedans, il y a un homme d'une quarantaine d'années, beau gosse. Il baisse sa vitre.
Vous cherchez du travail, mademoiselle?
Oui.
Ça tombe bien, je peux vous aider. Je suis formateur.
Ah oui, mais là, j'ai un rendez-vous.
Je vous emmène, si vous voulez. Si ça marche pas, on verra ce qu'on peut faire.
Il l'a aidé, comme il l'avait promis. Il l'a emmené boire des cafés chez McDo, déjeuner au Flunch. Il lui a acheté des vêtements. Il a surtout couché avec elle. Et elle est tombée enceinte. Et elle a couru chez lui pour le lui dire... Et là, elle a découvert qu'il était marié.
Ah mais moi, je veux pas d'enfants. J'ai aucune intention de le reconnaître. Et puis je quitterai pas ma femme.
On a proposé à ma mère d'avorter. Elle n'a pas voulu. Et le 3 novembre 1994, à 18h15, elle a accouché de moi. Et juste après, elle a fait sa première crise de délire. Elle est malade, ma mère. Malade psychiatrique. Elle n'a pas pu s'occuper de moi. C'est comme ça. On m'a déclaré enfant de l'État. Et donc, on m'a mis dans une pouponnière dès le lendemain de ma naissance. Et après, franchement, j'ai eu de la chance. À 18 mois, on m'a placé dans une bonne famille, chez Émilie. Émilie, elle a fait comme si c'était ma mère. Elle m'a nourri, elle m'a bercé, elle m'a consolé quand je pleurais. Elle m'a soigné et surtout, elle m'a fabriqué des souvenirs. Je les ai toujours, hein. Un petit jardin, un cerf-volant sur la plage, des promenades en bateau-mouche, un chat noir très câlin, des jouets, des peluches, de l'amour au robinet. Franchement, c'est ça qui m'a sauvé. Et puis, il y avait sa sœur, Agathe. Elle habitait tout à côté, elle n'avait pas d'enfant. Elle s'est attachée à moi, elle aussi. Tout était parfait. Et puis, Émilie a voulu déménager. Elle a voulu aller dans le sud. Elle pensait qu'elle pourrait m'emmener avec elle, mais l'aide sociale à l'enfance s'y est opposée. On ne peut pas éloigner cet enfant de sa mère génétique. Hein, ça n'est pas souhaitable, n'est-ce pas? Il faut maintenir le lien. Alors Émilie a fait une demande d'adoption. Ma mère était d'accord, elle est toujours d'accord, ma mère. Mais là encore, l'aide sociale à l'enfance n'a pas voulu. On ne peut pas retirer définitivement l'autorité parentale à sa mère, enfin, c'est quand même sa mère. Alors ben, il a fallu quitter Émilie. Un jour, ma nouvelle famille est venue me chercher. Une horrible dame blonde qui m'a embarqué. Je sais que j'ai beaucoup pleuré. J'ai pu emporter mes peluches, surtout ma préférée, le petit ourson qu'Émilie m'avait offert. J'avais 4 ans. J'avais l'âge de comprendre que j'étais tombé dans les griffes d'une sorcière. Et donc, on me place chez cette grosse dame blonde. J'arrive chez elle. Vous savez, le premier truc qu'elle fait, elle prend mes peluches. Et d'abord, celle que je préfère, le petit ourson. Elle l'attrape par une patte et elle le balance à la poubelle. Et dans la foulée, toutes les autres. Vous me croyez pas, hein? C'est vrai pourtant. Et puis, ça non plus, vous n'allez pas le croire. Elle ne m'envoie pas à l'école. Elle me garde enfermé chez elle, je vous jure. Et quand elle reçoit des gens, elle m'enferme dans le placard à balai, juré. Il n'y a plus de sourire. Il n'y a plus de cadeaux pour mon anniversaire. Il n'y a plus de chat noir à qui faire des bisous. J'ai oublié les bisous. Et puis, elle ne me donne pas à manger 3 fois par jour. Elle est payée pour ça pourtant, mais non. Et la nuit, elle me fait dormir sur une planche de polystyrène, sans oreiller, sans doudou. Et puis elle me frappe. Quand je pleure, elle me frappe. Ça dure 2 ans. De mes 4 ans à mes 6 ans. Il faut 2 ans à l'aide sociale à l'enfance pour réaliser que je suis victime de mauvais traitements et pour me retirer de chez elle. 2 ans. Et en plus, je crois pas qu'elle ait été inquiétée. Il n'y a pas eu de suite. On lui a juste retiré son agrément, on ne lui confie plus d'enfant. D'après ce que j'ai compris, il aurait fallu que ce soit ma mère qui porte plainte. Mais ma mère quoi. Après, on veut se rattraper. Alors on me place chez Tata. J'ai 6 ans. Et Tata me rachète des peluches, un petit lapin gris. Elle est pas méchante, Tata. Mais disons que je ne débarque pas dans sa vie au bon moment. Elle est dépressive, Tata. Remarquez, il y a de quoi. Vous savez ce qui lui est arrivé? Avant moi, elle s'occupait d'une petite fille, Mélodie. Et elle a fait une bêtise. Elle s'y est attachée. Elle l'aimait, quoi. Et elle a voulu l'adopter. Et l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, a refusé.
Madame, vous n'êtes pas là pour remplacer sa mère. Elle a une mère. Défaillante, certes, mais elle a une mère. Notre travail, votre travail, est de sauver ce lien. Vous n'avez pas à vous immiscer là-dedans.
Et donc, on lui a retiré Mélodie. C'est la règle à la noix de l'ASE. Ne jamais remplacer les parents naturels, génétiques. Même s'ils sont perdus, alcooliques, toxicomanes, partis. Sauvez le lien. Et vous, pendant ce temps-là, eh ben vous grandissez sans amour. À leurs yeux, c'est pas grave. Ils appliquent leur règle à la con. C'est le principal. Et donc c'est pour ça que Tata pleure tout le temps. Elle envoie des petits colis à Mélodie. On les lui retourne. Et elle chiale. Pas de chance pour moi. Et comme du coup je suis pénible, eh bien un jour elle m'amène chez le pédopsychiatre de l'ASE, qui me prescrit du Valium, du Tertian et du Risperdal. On me drogue. Et du coup j'ai plus envie de rien, sauf de manger, de bouffer, de dévorer. J'ai 9 ans, je grossis à vue d'œil. Un loukoum. Je me déteste. Un jour je lui dis,
t'as pas le droit de me forcer à bouffer tes médocs.
J'étais terrorisé à l'idée de devenir telle mère, tel fils, un fou comme elle. Je suis resté 4 ans chez Tata. Et puis à 10 ans, on me place dans un foyer. J'arrive avec ma peluche, bien sûr, mon petit lapin gris. C'est tout ce que j'ai. Et les autres, eh ben c'est à lui qu'ils s'en prennent d'abord. Mon petit lapin. Et après, il s'attaque à moi. Au foyer, tu comprends vite comment ça marche, hein. Tu passes dans le couloir, bam, un tacle. Tu vas à la douche, bim, un coup de poing. Tu vas aux toilettes, bam, un crochet ou des baffes. On t'humilie tout le temps. Le soir, t'es là dans ton lit, tu t'endors lentement. Et d'un coup, les grands débarquent et ils te collent une tarte. Ça les fait rigoler. Et toi, t'encaisses, t'apprends à éviter les embrouilles. Et donc je me suis mis à faire comme les autres. Maintenant, j'insulte les éduques.
Et ta mère va ! Va te faire enculer ta race !
Je fume aussi. Je survis. Au foyer, normalement, le week-end c'est mieux. Il y en a qui rentrent chez eux, on a moins peur. Et pourtant, un soir, un week-end, je suis en train de m'endormir. Un grand entre dans ma chambre. Il me saute dessus. Il transpire. Il bande. Et quand il a fini, je me dégoûte. Je me dégoûte. J'en parle pas, ça me dégoûte. Et ça recommence. Et un jour, je le croise dans le couloir. Il me colle au mur. Son haleine est fétide. Il me dit,
je t'aime.
On ne m'avait jamais dit je t'aime. Je savais pas que ça provoquait la nausée. Aujourd'hui, j'ai 14 ans. Et fini le foyer. On m'a placé chez Denis, un homme seul, veuf, bizarre et très rare. La première fois que je le vois, pardon, hein, mais il me fait penser à un gardien de prison. Grand, l'air un peu bêta, et surtout... sale, sale comme un peigne, avec sa chemise écossaise qui n'a pas été lavée depuis très longtemps, ses bottes toutes crottées. Il sent des pieds, il sent des aisselles. Il me fait visiter sa maison, sa piole pue. Je lui pose la question.
Est-ce que j'aurai une chambre ?
Oui. Oui, j'ai une chambre. Dégueulasse. 9 mètres carrés, encombrée par une énorme armoire. Les draps sont troués, on dirait un vieux torchon. L'oreiller n'a pas de housse, il est tout jaune. Je veux ranger mes affaires dans l'armoire, la grosse armoire. Elle est pleine à craquer de ses affaires. Alors ben, je les laisse dans la valise. Il a une ferme, Denis. Des moutons, des chèvres, des oies, des poules. Eh bien, on a décidé que ce serait ça, mon activité. M'occuper des animaux. Je vais plus à l'école, j'ai 14 ans, je suis garçon de ferme. Le matin, ni bonjour, ni café, ni biscuit, hein. Je dois aller nourrir les bêtes à la brouette. Garçon de ferme, je vous dis. Enfin, au moins, chez lui, je mange bien. Et je bois du cidre. À part ça, il parle pas beaucoup, hein. Un jour, je suis en train de couper des tomates et en même temps, je suis au téléphone avec ma mère. Je l'appelle de temps en temps, c'est ma mère tout de même. Normalement, j'ai pas le droit, hein, de l'appeler tout seul. Il arrive, il met direct le haut-parleur. Je me lève, je dis,
si t'écoutes mes conversations, je t'éclate la gueule avec mon couteau. Je t'égorge, d'accord ?
Juste après, sa mère à lui est morte. Il a plongé dans la dépression. Il me l'a collé sur le dos. C'était ma faute.
Je ne veux plus de toi ici. J'ai eu plein de jeunes ici. Il n'y a qu'avec toi que ça se passe mal.
C'est faux. Je suis un agneau à côté des autres au foyer. Alors voilà, ça a duré un mois et demi. Et maintenant c'est fini. Il veut plus de moi. Et juste avant que je parte, il égorge le mouton que j'ai vu naître. Et donc je me retrouve sur un banc dans le bureau de l'aide sociale à l'enfance, au Mureau.
Oh là là! On sait pas quoi faire de toi, hein. On n'a pas une place de libre.
Alors on finit par me coller à Versailles, au foyer départemental de l'enfance Robert Carpentier. Un château immense, glacial, découpé en secteurs numérotés, comme une prison. On me met en G1, dans une chambre à quatre, avec trois autres lascars, bien excités. Je voudrais dormir. Je suis fatigué. Mais pas eux. Et là, ça part en vrille. Ils retournent à la chambre. Ils renversent les meubles. Ils n'ont rien à perdre, puisqu'ils n'ont rien. Ça part tellement en vrille qu'ils appellent les flics, qui débarquent, qui les embarquent, et le directeur en profite pour me faire la leçon.
Tu vois ici, ça va vite. Tu déconnes, au panier.
C'est un foyer d'urgence, donc j'y reste pas longtemps.
On va me mettre dans un foyer ?
Non. Le lendemain matin, on me colle dans une voiture et on prend la route de Sartrouville. Je sais pas où je vais. J'ai 15 ans maintenant, je ne sais pas où on m'emmène. J'arrive devant un portail noir et là je vois une dame sur le perron. Une petite bonne femme enveloppée dans une robe verte, algérienne manifestement, mais blonde, 65 ans au moins. Je rentre dans sa maison. Ah ouais, sympa, chaleureux, cosy. Je m'y sens bien tout de suite. Elle s'appelle Yasmina. Et quand l'éducateur est parti, elle me fait un grand sourire. Et elle me dit
« Bon, et maintenant tu me racontes en vrai ce qui se passe. »
Et là, je regarde ses yeux, ses petites fossettes charmantes. Et je me dis « Il va se passer quelque chose ici. Quelque chose de bien. » Je lui raconte tout. Ma mère, Émilie, la grosse dame blonde, le fermier qui pue, je mets tout sur le dos de l'ASE. Et elle n'essaye pas de me contredire, hein. Elle connaît la musique. Ça fait des années qu'elle accueille des enfants. Elle les prend tout bébé, elle les garde jusqu'à leur mariage. Dans le quartier, on l'appelle l'ange. Je me sens tout de suite bien chez elle. Ma chambre, on dirait une suite impériale. Les draps ne grattent pas, il y a une couette, et il y a même une télé. Tout ça pour moi. Ah oui, je vous l'ai pas encore dit. Chez Yasmina, je suis pas tout seul. Mais les autres sont grands, ils sont adultes. Il y a Armand, un punk d'une vingtaine d'années, avec une crête rose. Il y a Sofiane, on devient tout de suite amis. Il y a Ahmed, il y a Rufus, un Congolais très poli et gentil. Et puis il y a Sarah, qui, quand elle avait 8 ans, a vu son père et sa mère se pendre. Elle a un petit bébé, Sarah, qui vit avec nous, chez notre ange à tous, Yasmina. J'ai 15 ans maintenant. Et l'école, c'est fini. Je n'ai même pas réussi à terminer ma quatrième. Il faut bien que je fasse quelque chose. Alors j'ai choisi la cuisine, un peu par hasard. J'ai fait un CAP, vite fait, à Cergy. Et là, je suis en stage, dans un snack chez Steve, un ancien taulard qui a l'air d'avoir 60 ans, mais qui en vérité en a 40. Il bosse avec son frère, Kevin. Je me sens si bien avec eux que j'y passe ma vie. Et maintenant, ils m'ont confié la cuisine. Oh, je suis pas un grand chef, hein, mais je connais des recettes simples. Les plats sont prêts à temps. Ils sont corrects. Ça tourne. Et puis pour la première fois de ma vie, on ne se plaint pas de moi. On ne m'engueule pas. On me montre que je progresse. On me dit « s'il te plaît ». On me dit « merci ». La vie s'est tellement arrangée pour moi que j'ai maigri, figurez-vous. Le patapouf qu'on bourrait de médicaments a disparu. Le sort m'a gâté, finalement. On m'a aimé quand même un peu. On m'a donné la force qu'il fallait pour ne pas sombrer. Je m'en suis sorti. J'entends souvent les autres, ceux qui ont des parents, se plaindre de leur famille. Je comprends pas. Je peux pas supporter. J'ai envie de hurler. Mais tu ne sais pas la chance que tu as. Maintenant, je pourrais leur dire. Va écouter mon histoire.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.